Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Quel ressort idéologique peut pousser une jeune fille d'une banlieue occidentale à partir en Syrie, épouser un inconnu djihadiste rencontré sur Internet? Quels éléments déclencheurs dans sa famille, ses amitiés, son environnement ont pu l'inciter à cela? Séraphin Alava est chercheur à l'Université de Toulouse et spécialiste de la radicalisation. Il a écrit le scénario d'un roman graphique, Citra et Shamira, basé sur une histoire vraie et dont il nous parle ce dimanche. Cette BD, publiée aux éditions La Boîte à Pandore, est accompagnée d'un parcours pédagogique à destination des jeunes, des parents et aussi des enseignants. Une émission que vous pourrez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio, application à laquelle vous pouvez, je vous y invite, vous abonner. Bonjour Séraphin Alava.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, membre également de la chaire UNESCO de prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent. Séraphin Alava, que raconte la bande dessinée Citra et Shamira, publiée aux éditions La Boîte à Pandore, dont vous signez le scénario?
Citra et Shamira, c'est le récit réel d'un parcours de radicalisation d'une jeune fille qui va aller jusqu'au bout de son choix, c'est-à-dire va partir en Syrie, va vivre à Raqqa, va vivre à la fois le côté clair de son idée et de son idéal de mettre en place un califat et le côté obscur de la réalité atroce de ce qu'elle y va vivre. On la suit dès toute jeune, quand elle a ses premières idées, non pas de radicalisation, je dirais plutôt de polarisation culturelle ou d'identité culturelle, et on va la suivre durant tout le parcours. C'est une histoire inspirée de faits réels, puisque moi je connais Citra et j'ai eu l'occasion par sa mère et par elle d'avoir l'ensemble du récit de son parcours.
Donc c'est une histoire romancée, mais qui se base sur une histoire vraie, sur une personne qui existe, Citra, vous l'avez dit. C'est une enfant de couple mixte, elle finit pourtant par se voiler, pour quelle raison ?
Elle se voile pour une raison dite objective, c'est qu'elle trouve que le voile c'est très féminin, que ses amis sont voilés, et qu'elle trouve qu'elle va se donner une identité comme ça, et elle se préoccupe de savoir comment il faut porter le voile. Et elle va demander à ses amis, et puis après elle va aller dans un salon de coiffure non mixte, où elle va découvrir ce monde des femmes et des femmes musulmanes. Elle se voile aussi pour une raison qui est une autre raison cachée, c'est qu'elle a un mystère de sa famille. Son père est parti et elle ne sait pas pourquoi réellement il y a eu une séparation entre sa mère et son père, parce que sa mère ne veut jamais parler de son père. Et elle a cette quête de son père. Elle aimerait pouvoir comprendre ses origines et comprendre son sens. Et sa quête vers l'islam, elle la dédie à son père et plusieurs fois, elle fait référence à son père qui est comme mystère puisqu'elle ne saura jamais, puisque la mère veut garder le secret et ne veut pas. Et même, il va avoir des relations un peu difficiles, dures entre la mère et Citra sur cette question.
Alors, vous citiez, Séraphin Alava, le salon de coiffure où Citra apprend à mettre son voile correctement. Et là, une employée lui dit « le voile, c'est une protection contre la société ». Est-ce à dire que dans ce milieu musulman salafiste, la société est vue comme dangereuse ?
Alors, il y a beaucoup de discours et de raisons, quand on s'intéresse à ce sujet, qui font que le voile est une protection. Premier élément, le voile est une protection pour des femmes musulmanes qui désirent porter le voile par rapport à l'impudeur de la société, par rapport à cette idée que la femme serait toujours un objet de désir. Et dans ce mettant un voile qui est uniforme, qui a une seule couleur, qui cache à peu près les formes féminines, on se met en situation de protection par rapport au regard, non pas seulement des hommes, mais au regard général de la société. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il est une protection parce qu'il est une forme d'identification entre sœurs. Elles se connaissent, elles se repèrent, elles se sourient, elles savent qu'elles font partie du même groupe et de la même communauté. Et là aussi, c'est une sorte de protection. J'ai un nous collectif qui va me rassurer, qui va porter. Enfin, le port du voile est une forme de protection par une affirmation. Nous avons notre choix, nous choisissons de porter le voile et du coup, nous avons cette autonomie et vous ne pouvez pas nous dire que nous devons le porter ou ne pas le porter. Et cette voie, qui est la voie prise par l'islamisme et le féminisme islamiste, montre de façon qui pour nous pourrait être paradoxale que le vêtement est un choix de la personne et que son corps lui appartient et elle choisit de se voiler.
Alors à un moment donné, Citra change de nom pour prendre celui de Shamira. Pour quelle raison ?
Parce qu'elle suit la tradition musulmane et elle prend un nom musulman. Et c'est une nouvelle naissance. D'ailleurs, elle dédie cette nouvelle naissance à son père. Elle a le sentiment d'être en famille, malgré qu'elle a une mère et elle a une famille, mais elle est tendue par rapport à cela. Et elle a l'impression d'ouvrir la porte d'un futur qu'elle imagine étant un futur favorable.
Alors justement, Citra Shamira est choisie par un combattant en Syrie pour se marier et rejoindre Raqqa. À ce moment-là, est-ce un choix forcé pour la jeune fille ?
Alors, c'est un choix obligatoire. Pas forcé, parce qu'elle le désire, mais c'est un choix obligatoire. Citra n'est pas de ces jeunes filles qui vont classiquement tomber amoureux d'un grand guerrier, d'un moudjahidi. Non, il n'y a pas de sentiment d'amour qui préexiste avant le choix du mariage. Elle le fait parce que pour une femme qui veut aller vivre en terre d'Islam, dans le califat, il faut être mariée et que se marier est un but classique puisque peu à peu, Citra prend toutes les références et tous les modèles de la famille traditionnelle. Elle veut avoir un mari, elle veut avoir des enfants et donc ce garçon la demande en mariage et pour elle c'est tout à fait normal et elle ne se pose pas. Elle n'a pas ce côté un peu romantique. Elle fait cet acte-là de façon consciente et de façon presque traditionnelle.
Et après deux maris, morts au combat, et un enfant, Citra peut s'enfuir lors du bombardement et la chute de Raqqa. Est-ce que cela a été le cas pour d'autres jeunes filles qui étaient parties au califat ?
Oui, il y a un certain nombre de jeunes filles qui ont pu partir par des réseaux d'ONG et qui ont pu partir dans des périodes particulières. À cette période-là, à Raqqa, c'est un peu l'apocalypse et donc c'est difficile. J'ai pris le temps, parce que comme je ne me suis pas rendu à Raqqa et en Syrie, de dialoguer avec des experts du terrain, des experts du lieu, des personnes de l'ambassade de Turquie, pour voir la faisabilité de cette chose, parce qu'il fallait toujours se méfier quand je recevais le témoignage. Est-ce que ce n'est pas un témoignage inventé ou falsifié ? Non, c'est tout à fait véridique. Les points de passage, les formes de départ ont été. Elle le fait dans ce moment où peu à peu elle est arrivée à la fin de son rêve. Et son rêve est devenu cauchemar. Elle le fait aussi parce qu'il y a une autre naissance. Si Citra a donné naissance à Shamira, Shamira donne naissance à un enfant. Et ce fait qu'elle devienne mère va bousculer totalement sa vision du monde.
Alors justement, que deviennent Citra Shamira et son fils aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont suivi un processus de déradicalisation ?
Alors, elles ont suivi, même si je ne peux pas dire exactement tous les éléments, parce que je dois garder l'anonymat de Citra, elles ont suivi des processus un petit peu particuliers qui sont des rencontres entre des personnes victimes du terrorisme et des personnes qui ont participé à cela, des lieux d'échange, un petit peu de justice restaurative. Elle a vécu cela, elle a bien sûr un passage en prison, mais comme elle n'avait participé à aucun acte et que son fils n'était pas un soldat du califat, donc elle a pu avoir une semi-liberté, mais elle a fait ce travail de réflexion et de conseil, elle a fait ce travail de déradicalisation. Le mot déradicalisation est très complexe parce que, en fait, est-ce que c'est de la déradicalisation, c'est-à-dire une sorte de retour en arrière à un avant ? Citra est toujours de religion musulmane avec une vision fondamentaliste. Elle est ça et elle en a le droit. Elle a cette vision qu'elle n'a pas remis en cause. Elle n'est pas devenue une soufie ou une musulmane suivant un peu les enseignements du Maroc. Elle l'est, salafiste. Mais par contre, elle s'est rendue compte que la violence n'était pas la solution. Alors, dans le jargon, on va dire qu'elle est plutôt quiétiste. Actuellement, elle cherche plutôt son rapport à la foi en vivant dans une communauté pacifique, en essayant de vivre au mieux les préceptes de sa foi.
<t'-> يسرعوني ابني بصور ويالي علي يكبر فيها الحب وآمالي ونمحي الألام.
أوريون إبدو sur RFI.
Pensez-vous, Séraphin Alavac, qu'il faille faire rentrer les femmes et leurs enfants qui sont encore aujourd'hui détenus dans des camps, notamment dans le Kurdistan syrien, les faire rentrer dans les pays occidentaux dont elles sont originaires, notamment en France?
Pour moi, la position, elle est réfléchie et assez simple. Dans le cas des enfants et dans le cas des mères, je pense qu'il faut les faire rentrer. Pas pour la même cause et pas pour la même raison. Même si la question humanitaire, des conditions de vie, des dangers, montrerait que c'est important de pouvoir le faire. Mais si on regarde du côté des mères, premièrement, certaines doivent rendre compte à la justice. Même si elles n'ont pas été combattantes, elles ont accompli un certain nombre d'actes. Et il faut rappeler que sous le califat, il y avait quand même des brigades féminines qui étaient des brigades des mœurs et qui ont fait beaucoup de crimes, beaucoup d'atrocités. Mais peut-être ont-elles eu aussi dans leur maison des esclaves yézidis. Et donc elles en sont coupables, elles sont responsables. Peut-être certaines mères ont favorisé l'engagement de leur enfant comme lionceau du califat, et dans ce cadre-là, et dans le cadre du droit international, elles sont responsables pénalement d'avoir entraîné que leur enfant mineur devienne un enfant soldat. Donc, il faut que la justice passe. Pour que la justice passe, il faut qu'elle puisse avoir à rendre compte et aussi à se défendre. Mais il faut que les témoins, et le temps des témoins, des victimes, puissent s'exprimer et puissent le faire. La meilleure condition, c'est soit un jugement dans leur pays avec des états de droit constitués, avec des droits de la défense, ce qui n'existe pas tout à fait en Syrie. Et je rappelle que la France ne reconnaît pas le gouvernement syrien, donc on ne l'a pas. On le trouve un peu plus en Irak. Donc il faut avoir ces conditions. Et il faut que les conditions de vie et les conditions de paix existent. Et dans toute cette zone, c'est très fragile. Il y a encore des soldats de Daesh qui agissent de façon clandestine. Il y a encore des problèmes de bombardement et de guerre. Donc, on est dans des situations d'une grande précarité. Le bon droit voudrait que ces personnes reviennent en France, qu'elles rendent compte à la justice, qu'elles soient condamnées ou innocentées, mais que ça se fasse. Quand je pense aux enfants, c'est tout à fait différent. Je ne comprends pas que nous sommes le pays des droits de l'homme et que nous ne respectons pas les droits des enfants. Que l'on hésite 5 minutes à faire rentrer des enfants quand les mères en sont d'accord, quand les familles d'accueil sont là et quand, par un arrêté ministériel, la protection judiciaire de la jeunesse est habilitée à pouvoir gérer ces enfants, à faire le bilan de leur santé psychologique et médicale, à faire leur bilan de leur éducation et à leur redonner le droit à avoir une famille, à avoir une éducation, à avoir des traitements de soins. Et là, je ne comprends pas. Alors souvent, on me dit, oui, mais peut-être certains ont été des enfants soldats. Mais alors, même s'ils ont été des enfants soldats, je rappelle qu'en dessous de 14 ans, tout enfant soldat est une victime, n'est pas volontaire, que, hormis dans le génocide du Rwanda, où il y a eu quelques cas assez rares, instruits, on a toujours traiter tous les enfants soldats et on a toujours essayé de les remettre dans ce qui est leur enfance, qui a été une enfance volée. Et donc, je ne comprends pas. Pour nos peurs, nous enfreignons le droit de l'enfant. Et je crois que notre État est assez grand pour pouvoir respecter le droit des enfants.
Séraphin Alava, la dernière partie du roman graphique Sitra et Shamira est un contenu pédagogique. Quel est justement ce contenu? Quel est son objectif?
L'objectif, c'est que des parents qui auraient cette bande dessinée, qui voudraient essayer de comprendre, des enseignants, puissent comprendre ce processus. On n'a plus trop le cas aujourd'hui dans l'idée de départ vers l'étranger, mais on a encore des processus de radicalisation à l'interne. Et je reçois très souvent des familles qui sont inquiètes, des sœurs qui sont inquiètes pour leurs sœurs, d'autres personnes, et qui ne comprennent pas ce processus. J'ai voulu essayer de montrer que le processus de radicalisation est un processus de quête de sens et qu'on pourra aider ces personnes-là en comprenant leur quête de sens et en les aidant à trouver la forme citoyenne, la forme pacifique où elles vont pouvoir trouver son sens. En même temps, j'ai voulu montrer que devenir musulmane n'est pas un acte de radicalisation à soi. On a le droit de devenir musulman, comme on a le droit d'être bouddhiste, comme on a le droit d'être athée, comme on a le droit de prendre n'importe quelle religion. Et souvent, des familles en ont peur. Elle se met à lire le Coran, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, j'ai voulu le relativiser. Par contre, j'ai voulu montrer que, à des moments donnés, un certain nombre de personnes qui sont des embrigadeurs et des embrigadeuses peuvent progressivement enlever la libre conscience des jeunes et peuvent les entraîner beaucoup plus loin que ce qu'ils feront. Et donc, il faut avoir une clarté pour comprendre l'ensemble de ces processus.
Alors, Séraphin Alava, outre cette bande dessinée Citra et Chamira, vous avez signé le scénario d'un autre roman graphique, Adam. Est-ce son pendant masculin ?
Alors, c'est et son pendant masculin et pas son pendant, puisque lui ne part pas en Syrie ou en Irak. Lui se radicalise et se fait arrêter beaucoup plus vite. Et Adam, que j'ai suivi, parce que c'est aussi une histoire vraie, c'est toute la part que je voulais montrer de l'intérieur des prisons, du travail qui est fait. On a souvent une tendance à caricaturer la prison. C'est quasiment la mosquée Sainte-Étoile. C'est-à-dire qu'on se dit, dès qu'on rentre en prison, on va être radicalisé. J'ai voulu montrer que des professionnels, là, savent et sont des experts de ce domaine-là, essaient de travailler et essaient de lutter contre cette radicalisation à l'intérieur des prisons. Et en même temps, j'ai voulu montrer un parcours de rédemption. Dans un sens, Adam va plus loin dans la reconstruction d'une pensée, dans la reconstruction d'une opinion, que celle de Citra. Adam va progressivement, avec le temps, qui aide, hein, et souvent quand on me dit « mais il va rester longtemps en prison », et j'ai dit « mais il aura comme ça le temps de se reconstruire ». Dans notre société, on est bousculé partout, et ce temps de pause, ce temps d'éléments, ça peut être un élément, et lui va le faire. Va le faire par une voie un petit peu particulière, puisque pour ceux qui liront le roman, c'est par la bibliothèque de la prison et par la découverte des livres de Romain Gary, d'Émile Ajar, qui va reconsidérer sa vie. Lui qui était un salafiste, et pour lire des propos d'un juif, comme il dit, c'était impossible, il va découvrir que ce qui le questionnait, ces questions d'existence, d'autres se le sont posées, ces questions d'existence, à l'intérieur de Romain. Et donc il va reprendre biais par rapport à son envie d'étudier, son envie de reprendre. Et là, actuellement, malgré qu'il soit en prison, il a repris à l'enseignement à distance ses cours et il veut reconstruire quelque chose pour lui en oubliant ce passé négatif.
Oui, Adam qui existe donc bel et bien comme Citra.
Oui, Adam existe bel et bien. C'est par sa mère que j'ai pu voir l'histoire. Là aussi, tout ce qui se passe à l'intérieur a été validé par des personnels en maison d'arrêt, par des personnels en pénitentiaire, pour bien raconter ce qui se passe et bien raconter cela. On a souvent une tendance à le montrer de façon très théâtrale, l'intérieur de la prison, sorte de jungle. J'ai voulu remettre les situations là où ils étaient et montrer que pour lui, ce passage en prison, de façon paradoxale, et sa mère, si elle m'entend, me trouverait un petit peu exagéré, c'est peut-être une chance. C'est peut-être pour lui une chance. Parce que sinon, eh bien, il aurait continué, il aurait sûrement fait des attentats, puisqu'il a été arrêté pour être en contact avec des groupes armés qui préparaient un attentat. Donc c'est paradoxalement une chance pour lui.
Merci, Séraphin Alava.
Merci, merci.
Professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès. Vous êtes scénariste de ce roman graphique « Citra et Chamira, quand j'étais djihadiste », publié aux éditions La Boîte à Pandore. À lire également « Adam » chez le même éditeur. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Tout de suite le journal.